Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Oh là là! Mon Dieu! Une autre féministe qui veut discuter de l'histoire de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Toujours la même chose de ces jeunes femmes qui veulent changer tout l'univers et qui veulent prendre le pouvoir pour peindre le monde en rose. Ou quoi? Non, non, attendez. N'éteignez pas le podcast. Je vous en prie. Je ne veux pas parler d'ultra-féminisme ou d'action antifasciste rose. Je veux juste parler de la langue. Et de son rapport avec cette citation. Donnez-moi une chance. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Vous venez d'entendre une citation de Nicolas Bouzet de l'année 1767. Mais nous n'avons pas besoin de remonter aussi loin dans le passé. Nous pouvons aussi rester dans le présent. Écoutons Macron.
Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible.
Ah, il parle de la langue, et plus précisément de la féminisation de la langue française. Ouf, c'est un sujet vraiment complexe et qui provoque la polarisation, comme nous avons écouté. Mais pourquoi est-il si controversé? Comment est-ce possible qu'un sujet concernant la langue polarise aussi profondément que même les hommes politiques en parlent? Excusez-moi, des hommes et des femmes politiques. Mais commençons par le début. Plus précisément, commençons par cette voix que vous écoutez. Moi. Je m'appelle Amélie et je viens d'Augsbourg. C'est une ville près de Munich. Dans cette petite ville Augsbourg, je dédie l'enseignement de l'allemand et du français. Dans le cadre du séminaire du niveau avancé, les mots du français contemporain, dirigé par la professeure Daniela Pietrini à l'Université d'Augsbourg, je suis tombée sur la question de la féminisation dans la langue française, car, en Allemagne, je remarque de plus en plus à l'intérieur de mon cercle d'amis des mouvements qui essayent de trouver de nouvelles formes pour rendre la langue allemande un peu plus inclusive. Puis, j'étais tentée de jeter un coup d'œil aux pays francophones, notamment à la France. Ce sujet intéresse-t-il les Français ou correspond-il au cliché selon lequel personne ne doit toucher à la grande langue française? Ce sont les questions dont je veux parler dans cet épisode. Mais je ne veux pas parler seulement de cette question. Par contre, je veux explorer l'univers de la féminisation et plonger dans les profondeurs de la langue française. D'accord. Laissons-nous dire que je vais essayer de nous en approcher. Au moins un peu. Pour cela, nous allons élucider quelques termes importants qu'il est utile de connaître. Après, nous commençons par nous demander s'il est nécessaire de parler du sujet de la féminisation de la langue et pourquoi. Pour trouver des réponses à cette question, nous allons continuer par un peu de théorie de la socio- et psycholinguistique. Mais pas de souci, ça va être plus intéressant qu'il semble. Je vous le promets. Et ensuite, quand nous avons compris l'impact que les changements linguistiques peuvent avoir sur notre vie et notre point de vue, nous jetterons un coup d'œil aux possibilités de réaliser une langue plus inclusive. Je vais également vous parler de l'histoire et du développement de la langue ces dernières années. Mais juste pour quelques petites digressions. Et peut-être avez-vous déjà remarqué qu'il manque quelque chose dans cette liste. Mais bien sûr, si l'on parle de changement linguistique, il ne faut surtout pas oublier l'Académie française. Vous pensez peut-être maintenant « Ouf, la féminisation, je n'ai aucune idée de ces choses féministes. » Et vous voulez éteindre cet épisode. Je vous prie de ne pas le faire. Ce n'est absolument pas grave si vous n'avez pas une image claire. Nous allons la découvrir ensemble. Et moi, je ferai de mon mieux pour ne pas vous ennuyer, mais pour vous emporter dans l'univers de la féminisation et de la langue française. Pour que vous n'ayez pas à écouter ma voix pendant toute la durée de l'épisode, j'ai aussi posé des questions à Liliane, Bérangère et Sylvain. Alors que Bérangère et Sylvain sont nés et vivent en France, Liliane est allemande et vit en France depuis 3 ans. Je suis heureuse de commencer ce petit voyage avec vous. C'est parti! Commençons par quelques explications et quelques termes. Le langage inclusif, c'est quoi? Imaginez, vous lisez un article, un livre, n'importe quoi, et la première phrase commence par « Cher lecteur ». Pas de problème si vous êtes un homme, mais à toutes les femmes qui écoutent, est-ce que vous vous sentez concernée? Si l'auteur ou l'autrice écrivait « Chère lectrice » et « Chère lecteur », le cas serait clair. Nous nous sentirions toutes et tous concernés, n'est-ce pas? Ce procédé, qui consiste à utiliser non seulement la forme masculine, mais aussi la forme féminine, pour s'adresser à un groupe qui ne se compose pas uniquement d'hommes et qui essaye d'intégrer les femmes dans la langue, s'appelle le langage inclusif. On doit ajouter une petite remarque. Dans certains contextes, le terme « langage inclusif » signifie une langue qui inclut également les personnes non-binaires, c'est-à-dire une langue qui essaye d'être tout à fait neutre. Dans cet épisode, je veux me concentrer seulement, ou au moins en premier plan, sur le sujet de la féminisation. Aborder l'inclusion des non-binaires sortirait du cadre de cet épisode, mais cela pourrait faire l'objet d'un sujet très intéressant pour des projets futurs. Et la féminisation? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela signifie que les femmes prennent le pouvoir? Ben non, pas tout à fait. Julie Abou et Maria Candia l'expliquent dans leur article sur le sujet de la féminisation, publié dans la revue Langage et Société. Elles décrivent, citation, on peut définir la féminisation comme un ensemble de pratiques linguistiques issues du féminisme visant à démasculiniser les expressions référant à des humains ou à rendre visibles les femmes dans la langue et le discours. Fin de la citation. On peut peut-être dire qu'en utilisant un langage inclusif, on contribue à la féminisation de la langue. D'accord. Et pour finir, un terme. Épicène. Le petit Robert explique un mot, par exemple un adjectif, est épicène lorsque sa forme ne varie pas selon le genre. Par exemple, l'adjectif habile ne doit pas être adapté pour être utilisé pour un substantif féminin. Il existe bien sûr beaucoup d'autres termes importants dans le domaine de la féminisation. Mais nous voulons nous concentrer sur ces trois-là. Attendez, langage inclusif. Mais l'intégration de quelque chose ou de quelqu'un, pardon, de quelqu'une, ne présuppose-t-elle pas que cette chose intégrée était exclue auparavant? Est-il vraiment le cas que les femmes sont exclues du langage français? Suivant le témoignage de Macron, la réponse est claire. Non, car le masculin fait le neutre. Oui. Mais si c'était vrai, ce serait super, n'est-ce pas? On pourrait arrêter toutes ces recherches, tous ces débats dans la politique et dans la colonne des commentaires sur Instagram, ainsi que tous les podcasts qui en parlent. Non? Si c'était si clair, pourquoi en parler? Comment la langue pourrait-elle être capable d'exclure quelqu'un ou plutôt quelqu'une. Jetons un coup d'œil à la linguistique. Imaginons un groupe de 2000 étudiantes et étudiants. Si, parmi ces 2000, il n'y a qu'un seul homme, on dit « il » et « les étudiants », au lieu de « elle » et « les étudiantes ». Vous le voyez? Un seul homme suffit à faire une phrase masculine. Peu importe les 1999 étudiantes. Et si je veux les décrire, Par exemple, pour dire qu'ils sont très curieux, vous l'avez déjà entendu, j'ai dit curieux et non curieuse. De même, lorsqu'on s'adresse à un groupe, on utilise la plupart du temps la fin masculine. Chers étudiants et non chères étudiantes. Bon, j'ai dit que le langage inclusif essaye d'intégrer les femmes au langage. Faisons une petite expérience de pensée. Imaginez 5 avocats devant un palais de justice. Imaginez-les aussi précisément que possible. À quoi ressemblent leurs vêtements? Vous avez probablement pensé à des chemises blanches, des costumes noirs ou bleus ou des robes bleues foncées, n'est-ce pas? Ah bon? Oh! Vous n'avez imaginé que des hommes? Attrapés! Ce n'est pas grave. Cela montre juste que la femme masculine, avocat, n'est peut-être pas aussi neutre que le prétend Macron. Ce phénomène, selon lequel la langue peut influencer notre pensée, peut être expliqué par la théorie de Sapir-Whorf. Laissez-moi vous l'expliquer avec les mots du Juliette Trigny, qui la résume très pertinemment. Citation. L'exemple le plus fréquemment convoqué est celui des couleurs. Pour Whorf, le spectre des couleurs visibles est divisé de manière différente selon les mots de celui qui observe. Plus le vocabulaire des couleurs est riche, plus le locuteur de cette langue serait à même de percevoir de couleurs différentes. De même, un système grammatical des temps différents entraînerait une perception du temps différente. Selon cette hypothèse, certains groupes humains ne connaissant pas le futur grammatical seraient incapables de se projeter dans l'avenir. On pense par la langue et les particularités de la langue orienteraient notre pensée. Fin de la citation. Alors la théorie Sapir-Whorf dit que nous ne formons pas seulement la langue, mais que la langue nous forme aussi. Elle peut avoir un impact sur notre pensée, sur nos attentes, sur notre façon de voir le monde. Trigny déduit de cette théorie que, citation, « la véritable révolution pourrait s'accomplir à travers une réforme du langage ». Fin de la citation. D'accord. Oups, c'était trop théorique. En résumé, on a bien vu que le français contemporain est dominé par les femmes masculines. Et nous avons également bien compris, du moins en partie, pourquoi cette domination du masculin peut être considérée comme un problème. En utilisant une langue dominée par les hommes, notre monde vient, ou plutôt reste, aussi dominé par eux. D'accord. J'ai également demandé à Bérangère pourquoi il est nécessaire de parler de la féminisation de la langue et elle m'a répondu de manière très pertinente.
Parce que la langue structure nos façons de penser. Si on change la langue, on peut aussi changer les mentalités.
Et également la réponse de Liliane succède bien l'idée de la théorie de Sapir-Whorf.
Il est nécessaire de parler du langage inclusif parce que la langue est toujours quelque chose qui crée des réalités. Et si on parle que des hommes dans la langue française, forcément il y aura des femmes qui vont se sentir moins encouragées de faire certains métiers par exemple. Et c'est pour ça que nous, on doit se poser la question comment on parle.
Mais que faire maintenant que nous avons compris que la langue peut avoir un impact? Il faut d'abord comprendre que l'influence entre l'humain et la langue fonctionne dans les deux sens. L'humain influence la langue et la langue influence la pensée et le point de vue sur le monde. Par conséquent, si nous ne voulons plus que notre langue nous fasse voir le monde comme étant plus masculin que féminin, nous devons penser à la possibilité de changer notre langue. Et franchement, n'est-il pas super cool de n'avoir rien d'autre à faire que de changer quelques mots et de prendre conscience de sa langue pour changer le monde? Au moins un peu. Alors, comment le faire? Je voudrais envisager avec vous des possibilités de parler de manière plus inclusive, c'est-à-dire d'équilibrer la visibilité des femmes et des hommes. Commençons par les substantifs. Mais pas de souci, je ne veux pas changer tous les substantifs masculins en féminin. Mais nous avons déjà écouté l'expression « chers étudiants » au début de cet épisode. Alors, comment pourrait-on la faire plus inclusive? Si on parle de l'usage oral, il y a les possibilités suivantes. Chers étudiantes et chers étudiants, ça s'appelle doubler. Une autre possibilité serait de dire chères personnes étudiantes. Ce serait une forme épicène et une solution lexicale, si on veut parler en jargon, car on remplace ou ajoute des mots. On peut aussi simplement faire l'inverse de la norme actuelle en disant juste « chères étudiantes ». Ce serait simplement le remplacement du masculin par le féminin. Mais cette dernière possibilité n'est évidemment pas vraiment utilisée. Mais elle pourrait être une solution. Parlons maintenant de l'usage écrit. Il y a plusieurs possibilités à envisager. Par exemple, on utilise juste un mot, mais on l'adapte en ajoutant un « e ». Par exemple avec des points médians, des parenthèses ou des barres obliques. Vous voyez probablement déjà le problème. Comment prononcer ces formes avec un point médian? C'est probablement une des raisons pourquoi les solutions comme le doublé sont plus fréquentes. Toutes ces possibilités permettent de réaliser un langage un peu plus inclusif. On doit juste prendre une décision. Et pour nous aider un peu à bien choisir entre les différentes options, et pour qu'on ne doit pas toujours réfléchir de nouveau et se perdre dans l'univers des possibilités, il y a des manuels, par exemple le livre « Manuel de grammaire non sexiste et inclusive » qui présente les avantages, mais aussi les inconvénients des différentes possibilités. Et si on parle de manuel, il faut aussi attirer l'attention sur un site internet du gouvernement du Canada. Vous pouvez le trouver sous le titre « Écriture inclusive, reformulation ». On y trouve de nombreux exemples, explications, idées, propositions, plus ou moins innovantes, pour réaliser une écriture inclusive. Et dedans, il ne parle pas seulement de la féminisation de la langue, mais aussi d'intégrer des personnes non-binaires, c'est-à-dire des personnes qui ne s'identifient ni au genre masculin ni au genre féminin. Ce serait bien sûr aussi un sujet très intéressant, mais ça nous guiderait dans un univers complètement différent et trop complexe pour cet épisode. Restons aujourd'hui sur le sujet de la féminisation. Si on parle des substantifs, il faut aussi parler des noms. Par exemple, des professions. Dans certains cas, il suffit d'ajouter le mot « femme » ou « madame », tout simplement. Par exemple, un policier et une femme policier. Une autre possibilité est de créer de nouvelles formes en changeant des morphèmes. Acteur devient actrice. Une troisième possibilité est bien sûr d'éviter la forme générique, par exemple, comme nous l'avons déjà écouté au début. Les personnes étudiantes ou les personnes qui travaillent à la police. Mais quelquefois, ça complique la syntaxe et c'est évidemment plus long. Particulièrement intéressant sont les cas pour lesquels on ne connaît que la forme masculine, même s'il existait déjà une forme féminine à l'époque, qui a été évincée par la forme masculine. Ça vous semble bizarre? Laissez-moi vous donner un exemple. Quelle est la forme féminine de « auteur » ? Pensez-vous à « auteur » avec un « e » ou à « autrice » ? N'importe quelle forme vous avez pris, vous avez raison. La forme « une auteur » est plus courante au Canada. Mais en France, et aussi selon le petit Robert, c'est une autrice. Peut-être pensez-vous que le mot « auteur » avec un « e » serait moins une intervention de la langue française qu'un mot comme « autrice » qui semble être un néologisme. Mais le mot « autrice » existait déjà au XIVe siècle. Et ce n'est pas étonnant si on envisage le fait que le mot français auteur vient du mot latin auctor et en même façon le mot autrice qui dérive du mot auctrix. Pendant les siècles suivants, on a décidé de ne parler plus des autrices.
Parce qu'être écrivain, c'est une chose pour les hommes.
Eh bon, pourquoi utiliser une expression pour une réalité qui n'était pas acceptée? Alors, si quelqu'un dit qu'on ne devrait pas influencer la langue parce que ce serait artificiel, vous pouvez désormais penser à cet exemple où des hommes ont imposé leur volonté et ont systématiquement évincé les femmes de la langue française. En plus, on peut aussi envisager d'autres aspects qui peuvent être pesés si l'on veut prendre des décisions entre auteur et autrice. Liliane nous l'explique. Je lui ai demandé quelle femme elle préférait et voici sa réponse.
La question si on devrait utiliser autrice ou auteur pour une écrivaine est une très très bonne question puisque les deux ont des avantages et des inconvénients, je trouve. Autrice, c'est un mot qui est clairement féminin à l'oral et à l'écrit. Donc même si on parle, là, c'est clairement une femme qui est concernée par rapport à auteur. Parce qu'on n'entend pas le E à la fin qui rend la forme féminine. Du coup, c'est quelque chose qui, pour être un homme aussi, ou aussi une personne non binaire ou intersexe. En fait, quand on parle vraiment d'une femme, c'est peut-être mieux d'utiliser autrice. Par contre, si on parle de quelqu'un hors. Du système binaire, donc une personne non binaire ou intersexe, je préférerais peut-être utiliser auteur avec un point entre R et E, comme ça on est sûr d'utiliser une forme neutre, mais là encore à l'oral on n'entendra pas vraiment la différence et on n'entend peut-être pas. Le fait qu'on fasse attention à parler de manière inclusive.
Nous n'avons pas encore terminé de reprendre à la question. Comment peut-on réaliser le langage inclusif? Pour cela, il faut aussi parler des adjectifs, qui sont vraiment un cas particulier en français à cause des accords. Par exemple, les hommes et les femmes de cette famille sont grands, et non grandes. Oui, d'accord. Mais bon, c'est comme ça depuis toujours. On ne peut pas bouleverser toute la langue. Oui. Mais laissez-moi vous parler de l'accord de la proximité. Pour cela, l'accord fait référence au mot le plus proche de l'adjectif. Par exemple, les costumes comme les chemises sont blanches. Au lieu de les costumes comme les chemises sont blancs. Parce que chemise est féminin et plus proche de l'adjectif blanc ou blanche. Et ce n'est pas une innovation moderne. Il s'agit du système du latin. Le français a repris beaucoup de règles du latin, mais concernant l'accord de proximité, on a choisi de le remplacer par la règle d'utiliser en général l'accord masculin. C'est bizarre, non?
Mais bon, je suis sûre que les linguistes avaient de bonnes raisons pour ça, hein?
Et en fait, vous connaissez déjà cette raison. On l'a écouté au début du podcast. Les linguistes des 17e et 18e siècles avaient cette opinion. Citation: le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Fin de la citation. Voici la réponse à la question du début. Cette phrase, ou plutôt la vision du monde qui se cache derrière cette phrase, est l'une des pièces du puzzle qui ont formé le français d'aujourd'hui. Et pas seulement dans la grammaire, mais aussi dans la poésie, on peut constater les évolutions linguistiques par rapport au genre.
Par exemple, que la rime doit alterner entre masculin, avec e sonore, et féminin, avec e muet. Au Canada et en Suisse, il y a des tendances à revenir à la règle de proximité. La Suisse a envisagé cette possibilité déjà en 1991. Et on peut aussi la trouver dans une publication de la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario. Tout comme les membres de la Fédération des professionnels ont déjà utilisé en 1998 dans leur texte la règle de proximité. Quand même, il faut admettre qu'il n'existe pas, ou peut-être pas encore, de lois qui disent qu'il faut utiliser désormais la règle de proximité. Mais les exemples donnés montrent que l'évidence de la règle de la primauté du masculin se met à vaciller. Et si vous entendez quelqu'un dire que ce développement nuit au français, notre bon français, vous pouvez vous souvenir de ce que je vous ai raconté sur les origines de cette règle, qui n'a jamais été gravée dans le marbre, mais qui a été inventée par les linguistes qui croyaient en la supériorité des hommes. Et si on revient à la citation de Julie Abou et Maria Candia, juste au début de l'épisode, on constate qu'elles parlent de démasculiniser la langue. J'espère que cette petite digression dans l'histoire aide à comprendre pourquoi elles ont choisi cette expression. Alors le terme démasculiniser peut aider à changer le point de vue, peut-être aussi à affaiblir les discours très polarisés autour de ce sujet linguistique. On ne veut pas féminiser la langue, on veut juste la démasculiniser. Le but n'est pas de transformer le français en une langue dominée par un ultra-féminisme. On demande juste un équilibre entre les hommes et les femmes. Pas seulement dans le monde, mais aussi dans le système qui le représente, notre langue. Vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé de la Suisse et du Canada. Mais est-ce qu'il n'y a rien à dire à propos de la politique en France? Ben si, bien sûr. Mais juste comme une mise en garde, sans en attendre de trop. En 1983, une loi a été adoptée qui stipule l'égalité entre les femmes et les hommes au travail et qui a été initiée par Yvette Roudy sous François Mitterrand. Mais l'égalité croissante a été suivie de problèmes. Comment nommer les femmes s'il existait jusqu'ici seulement des femmes masculines? Étant donné que les femmes travaillent de plus en plus dans des domaines des hommes, la nécessité de les nommer était créée. Et pour le faire de manière systématique, Roudy a lancé une commission qui se posait la question de savoir quelles femmes féminines doivent être utilisées. Mais se lancer dans ces discussions sera trop long pour ce podcast. Laissez-moi quand même souligner que la division n'était pas aussi claire entre conservateurs et libéraux. La lettre de Philippe de Saint-Robert, le commissaire général de la langue française de 1984, dans laquelle il demande à l'Académie française de reformer la langue afin qu'elle comporte des formes féminines, nous montre qu'il y avait même des défenseurs de la langue française qui n'y voyaient pas de conflit avec une langue qui se développe un peu plus au féminin qu'auparavant. Le fait que les propositions de cette commission n'aient pas réussi à s'imposer dans la pratique peut également être dû à l'orientation de la politique sous les gouvernements de Jacques Chirac. Quelques années plus tard, on peut tout de même trouver un exemple de petit mouvement pendant les années 90. Pendant le ministère de Lionel Jospin, de 1997 à 2002, qui a accordé l'importance à l'égalité entre les femmes et les hommes, plusieurs femmes dans les ministères se sont opposées à être appelées « Madame le ministre » ou « Madame le député ». Ici, je dois faire la remarque qu'il existe un livre de titre « Le ministre est enceinte » de Bernard Cerquilini qui se consacre à la féminisation dans ce livre. Revenons au sujet.
Parmi les femmes et les hommes au ministère, il y avait aussi Elisabeth Guigou, une vraie féministe. Je dois faire cette petite autre remarque et je dois vous faire savoir qu'il y a un épisode sur elle dans la série « Les femmes et le pouvoir » de France Culture. Une série de podcasts vraiment très intéressant et passionnante. Il faut aussi parler d'Edith Cresson, de Ségolène Royal et de beaucoup d'autres femmes qui ont essayé de créer un impact sur la langue. Mais une liste des personnes engagées ne peut probablement jamais être complète. Et si l'on parle des grands débuts de la féminisation de la langue française, il faut aussi nommer la publication en 1999 du titre « Femme, j'écris ton nom ». Un manuel de la féminisation écrit par les linguistes et par l'Institut national de la langue française et le Centre national de la recherche scientifique. Si vous vous y intéressez, vous pouvez le trouver très simplement sur le site de l'Institut national du service public sous le titre « Femme, j'écris ton nom ». Grande recommandation. Peut-être vous a-t-il manqué quelque chose ces dernières minutes. On n'a pas encore parlé de l'Académie française. Mais regardez tous les débats entre les politiciens, les Françaises et les Français, et l'Académie française nous prendre probablement des heures. Des jours peut-être. Alors laissez-moi vous en faire un petit résumé. L'Académie française essaye de rester fidèle au masculin comme état neutre et de se positionner contre les innovations féministes dans le langage. On peut trouver beaucoup de lettres ouvertes et publications de l'Académie française dans lesquelles elle déclare encore et encore que le masculin l'emporte sur le féminin. Ouf, c'est dommage. Avant de quitter le domaine de la politique envers la féminisation linguistique, je veux ajouter une pensée de Jutta Erkenhahn. Peut-être qu'une raison pour l'Académie française de s'opposer au mouvement féministe pour la langue française est que vous avez déjà entendu dire que la féminisation est plus avancée au Canada, en Suisse et en Belgique qu'en France. Si l'Académie française acceptait que ce pas, alors féminiser ou plutôt démasculiniser la langue française, soit le bon, elle devrait admettre que ce sont les autres pays francophones qui ont raison et qui ont compris sa nécessité. Cependant, en restant d'avis que la féminisation n'est qu'une mode, il est plus facile de critiquer les autres pays francophones et par là, la France reste le pays qui fait les règles et qui garde son autorité sur la langue française. J'ai posé la question à Albert Rocher pour savoir si le développement de la féminisation pourrait être un danger pour la langue française. Elle m'a répondu.
Je crois pas. Nous, les langues évoluent tout le temps. Ça peut surprendre, mais ce n'est pas une menace. Moi, je crois pas. Les langues ont évolué. Donc, on voit bien que c'est une langue vivante. Et donc, une langue vivante évolue.
Et finalement, il faut parler des pronoms. Nous avons déjà parlé du phénomène qu'on utilise « il » pour un pluriel neutre. Mais il existe aussi d'autres idées. Vous vous souvenez-vous du début de cet épisode et comment j'ai commencé ce podcast? J'ai dit « bonjour à toutes et tous ». Mais comment auriez-vous réagi si j'avais dit « bonjour à tous » ? Continueriez-vous à écouter le podcast? Ou serait-ce trop d'ultra-féminisme pour vous? Un mot comme tous s'appelle mot-valise, parce qu'il se compose de deux mots propres qui sont combinés. Ici, tous et toutes. C'est la même chose pour le mot frère. Frère combiné avec sœur. Ou le pronom non-binaire, il. Ici, c'est il plus elle. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Cela montre que la langue française est créative. Quand même, nous devons rester honnêtes. Les femmes comme tous ne sont pas vraiment utilisées, excepté peut-être par quelques activistes. Cela nous amène à une question absolument importante dont nous n'avons pas encore parlé. Je parle du langage inclusif, des possibilités de le réaliser, bla bla bla. Tout cela est bel et bien, mais qu'en est-il de la réalité? Pour le découvrir, je parlais encore une fois avec Liliane et Bérangère et aussi Sylvain. Ils m'ont répondu à la question de savoir si le langage neutre est important pour ils et si ils et leur entourage utilisent le langage inclusif dans leur vie quotidienne. Et je dois préciser que je les ai priés de se concentrer sur le sujet de la féminisation et non sur les personnes non-binaires. Commençons par Bérangère.
Oui, parce qu'il permet de rendre les femmes visibles dans la langue et de réduire un peu les inégalités symboliques. Je crois qu'il ouvre le débat sur l'égalité et il montre qu'on réfléchit à la place des femmes dans la société.
Sylvain a répondu à la question de savoir si lui et son entourage utilisent le langage inclusif.
Je pense que pas grand monde. Peut-être parce que une grande partie de mon entourage est quand même de ma génération, donc un petit peu plus vieille que votre génération, qui est la vraie génération inclusive. Après, très franchement, j'ai vraiment l'impression que pour des amis, et même des amis qui donnent de l'importance à la langue française, c'est vraiment pas une problématique très importante. Donc, à mon avis, il n'y en a pas énormément qui font réellement attention. Peut-être dans un mail administratif destiné à une femme ou à des femmes, un mail pro, ce genre de choses. Mais à part ça, en tout cas à l'oral, personne.
Bérangère répond à cette question comme suit.
J'avoue que je n'ai pas vraiment observé, même pas du tout. Donc, je ne peux pas du tout dire, je n'ai pas de référence, je n'entends personne oralement utiliser le langage inclusif. Moi, je pense plutôt à la forme à l'écrit. Moi, je préfère les étudiantes et les étudiants parce que c'est clair et lisible pour tout le monde. Moi, je l'adopte quand je m'adresse à aux personnes qui suivent les formations avec moi. Quand ce sont des femmes, je dis « chères toutes ». Et quand il y a un homme, puisque ce sont souvent un public plutôt féminin, eh bien, j'inclus les femmes et les hommes. Donc, je n'utilise pas la forme qu'on utilise, le masculin qui remporte. À l'oral, je ne l'utilise pas spécialement, mais je serais plutôt favorable aussi à dire « chères étudiantes » et « chers étudiants ».
Une dernière fois, Liliane.
Vu que j'ai un entourage quasiment cuir à 100%, quasiment tout le monde fait attention à vraiment parler de manière inclusive. Donc ça représente pas vraiment la société française, mais dans mon entourage personnel, c'est vraiment quelque chose qui est très très apprécié.
Alors, d'un côté, nous avons vu qu'il y a presque tout un univers de possibilités pour remplacer des formes masculines par des expressions qui emportent le féminin, qui l'emportent vraiment. Mais de l'autre côté, nous avons aussi jeté un coup d'œil à la réalité. Et on a vu que, même si on peut constater des changements dans la langue française, ils se déroulent très doucement. Je dois ajouter que c'est une circonstance absolument normale que le processus d'évolution de la langue prenne du temps. Parfois des années, des décennies ou même des siècles. On ressent des changements dans la société. Comme par exemple le mot « valet », qui a mis des siècles à disparaître et qui on peut trouver encore au théâtre aujourd'hui. Je le dis parce que le but de ce podcast n'était pas de vous faire des reproches si vous n'utilisez pas les formes féminines ou même si vous n'y avez jamais pensé. Ce podcast a pour but de vous donner des informations et peut-être aussi de vous encourager à réfléchir à votre langue et à devenir un peu plus consciente et conscient de votre propre langage. Pour finir, ou presque finir, je veux partager le concept très intéressant du Sylvain. Il nous explique comment il utilise les formes féminines et masculines et comment il essaye d'utiliser un langage au moins un peu plus inclusif. il répond à la question de savoir s'il utilise un langage neutre dans sa vie quotidienne.
Moi, personnellement, un petit peu, parce que je sais que j'ai un public qui est parfois sensible, mais je l'utilise pas de la manière dont il est construit, c'est-à-dire que je vais pas répéter les étudiants et les étudiantes, je vais pas dire les étudiants slash te, ce genre de choses, je fais pas du tout. Par contre, finalement, c'est presque plus dans une utilisation mixte que je fais. Devant une classe, parfois je vais utiliser un féminin même si j'ai des garçons, parfois j'utilise un masculin même si j'ai des filles.
Et pour vraiment finir, une petite anecdote du Bérangère.
Juste une petite anecdote, ma grand-mère qui a vécu jusqu'à 96 ans, disait toujours doctoresse. Quand j'étais petite, ça m'avait marqué, parce que j'ai toujours entendu dire docteur, que ça soit pour masculin ou féminin. Et ma grand-mère disait toujours doctoresse. Et ça m'avait toujours interpellée, le fait que, voilà, à plus de 90 ans, elle disait encore ma doctoresse. Donc elle mettait bien la différence entre homme et femme.
C'est la fin de cet épisode avec cette petite anecdote qui nous montre que les choix que nous faisons pour notre langue peuvent influencer et peut-être aussi motiver notre entourage à remettre en question le connu et à oser de nouvelles voies, et peut-être juste un peu féministe. Merci de m'avoir écouté, et un grand merci à Liliane, Sylvain et Bérangère pour vos réponses et expériences. J'espère que cet épisode vous a plu, et qu'il a permis de mettre en lumière la créativité, la complexité et la diversité du vocabulaire du français contemporain. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage dans l'univers de la langue française. À très bientôt.